15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, c'est tous les jours de 15h à 16h. Alors je suis ravie de vous retrouver ce lundi. Pour ceux qui se posent la question, nous sommes toujours en télétravail car à Europe 1, nous avons décidé d'y aller progressivement pour le retour des équipes dans les locaux. Donc pour Sans Rendez-vous en studio, ce sera dans quelques semaines. Alors lui aussi, il est encore chez lui mais en direct avec nous, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy, comment allez-vous ?
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, ça va, vous l'avez dit, hein, premier jour de déconfinement, mais soyons prudents. Allons-y progressivement et peut-être qu'on aura un été un peu plus sympathique.
Allez, au menu du jour aujourd'hui, nous commencerons par interroger Philippe Amouyel. Il est professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Avec lui, nous parlerons évidemment du déconfinement qui s'amorce dès aujourd'hui et d'un outil qu'il a mis au point avec plusieurs experts, le Covid Score, un outil qui permet de mesurer son risque individuel ou celui de ses proches face au virus par rapport au risque moyen de la population. Car oui, nous, que nous soyons un homme, une femme, selon notre âge, notre corpulence, notre risque peut être très différent vis-à-vis de cette infection. Ensuite, vous le savez, dans Sans Rendez-vous, on continue de vous informer tous les jours, mais nous essayons aussi de vous faire du bien. Et aujourd'hui, à quelques jours du retour en classe pour environ 1 million de petits élèves, comment les préparer psychologiquement ? Pour en parler, Mélène Descamps sera notre invitée. Elle est psychologue dans l'éducation nationale. Et puis pour finir cette émission, comme tous les jours, on retrouvera Catherine Blanc, notre sexologue, qui va aujourd'hui tenter de rassurer les célibataires qui ont du mal à se projeter vers de nouvelles rencontres malgré le déconfinement.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite pour ouvrir votre magazine santé, vous êtes avec nous par téléphone, professeur Philippe Amouyel, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Alors vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. D'abord on va parler du déconfinement avec vous si vous le voulez bien, ça y est il est lancé. Est-ce qu'il arrive à la bonne date selon vous, le virus on le sait, il circule encore beaucoup en France. Est-ce qu'on n'aurait pas dû attendre peut-être encore un peu, enfin maintenant c'est fait soyons dit mais bon.
Non, je pense qu'il est le choix de la date du 11 mai était, à mon avis, une bonne date. Hein. Après ces deux week-ends potentiels qui s'annonçaient chargés, on a obtenu un certain nombre des résultats qu'on cherchait à obtenir, c'est-à-dire la diminution de la circulation du virus, hein, puisque vous savez que c'est en fonction du nombre de personnes qu'il contamine. Là, on est tombé en dessous de moins d'une personne contaminée. Et puis maintenant, il faudra apprendre à vivre, il faudra apprendre à travailler, parce qu'il ne faut pas que la crise économique vienne se substituer, malheureusement, à la crise sanitaire.
Professeur Amouyel, dans les hôpitaux, justement, chez vous, par exemple, au CHU de Lille, vous diriez qu'on est dans un retour à la normale ou pas encore ?
Alors, retour à la normale, non, mais diminution extrêmement importante de la tension qu'il y avait dans les services. On a toujours des patients qui sont hospitalisés pour Covid, mais beaucoup moins. On retrouve des patients qui sont hospitalisés pour d'autres pathologies dans les services de réanimation. On retrouve des places libres. Donc, on sent qu'il y a un certain soulagement. Et la pression qu'on a eue au cours des deux derniers mois, c'est franchement abaissé. Et ça a permis aussi aux troupes de récupérer un peu pour justement se préparer, elles aussi, à la sortie de confinement.
Docteur Jimmy Mohamed.
Vous avez été en renfort au SAMU, je crois, pendant le plus dur de la crise. Est-ce qu'il y a eu un moment où tous les appels des patients ne portaient que sur le Covid ?
Alors très concrètement, j'ai été sur ce renfort parce qu'on a justement créé, le professeur Patrick Goldstein du SAMU de Lille a créé une plateforme dédiée aux appels Covid qui nous étaient transmis par le SAMU, puisqu'on a multiplié par 6 presque le nombre des appels habituels du SAMU. Ouais. Pour les traiter spécifiquement. Donc je suis intervenu là comme médecin régulateur auprès d'une équipe de jeunes médecins, puisqu'on avait pas mal d'étudiants en médecine, je voudrais les saluer pour le travail qu'ils ont fait ici, pour justement essayer de répondre à cette multitude d'appels qu'on a eu pendant quasiment un mois et demi.
C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais ces étudiants en médecine, ils ont appris la médecine, leur futur métier, dans des conditions vraiment totalement inédites, hein, c'est ça hein.
Je crois que c'est un des meilleurs stages de médecine, parce qu'en fait, ils n'ont à travailler qu'avec la voix, à interpréter ce que va leur dire le patient, à analyser les symptômes. Donc c'est un entraînement réellement exceptionnel pour ces étudiants.
Dans quel état sont les troupes ? Vous avez dit que certains pouvaient... Enfin, ça y est, le temps du repos est venu pour certains, enfin on l'espère. Est-ce que ceux qui ont été en première ligne aux urgences et dans les services de réanimation, ça y est, ils arrivent à aller prendre quelques jours de vacances parce qu'ils vont en avoir besoin ? On ne sait jamais en plus ce qui nous attend derrière. Hein.
Oui, alors là j'en connais quelques-uns. Alors, je ne les connais pas tous bien entendu, mais tout le monde respire plus sereinement. Alors certes, tout le monde se prépare également à ce déconfinement, tente à être prêt pour justement ne pas baisser la garde, pour éviter que le virus redémarre et être prêt le jour où il le faudra. Mais je pense que la sérénité est revenue.
Jimmy ?
Alors évidemment, il y a la perspective d'une hypothétique deuxième vague. Est-ce que vous pensez que le système hospitalier pourrait la supporter ?
Tout va dépendre de son importance. Je crois que ce qu'on a réussi aujourd'hui, c'est à contenir ce virus, à écraser la courbe, hein, comme disait un certain nombre de spécialistes. Ce qui est important, c'est de maintenir cette pression sur le virus de manière à ce qu'il ne se diffuse pas et que son taux de diffusion reste inférieur à 1, c'est-à-dire qu'il contamine moins d'une personne chaque fois qu'une personne est infectée. Et pour ça, on a un certain nombre de mesures sur lesquelles on s'est entraîné. Bah, c'est toutes les mesures barrières, hein, qui, j'espère, maintenant sont bien intégrées. C'est tout ce qui est des aspects de distance et distanciation physique, hein, toujours à plus d'un mètre. Je crois qu'il y a deux éléments maintenant qui vont être importants dans la phase qui arrive. C'est la capacité à faire des tests, à maintenir en permanence des masques, à identifier les sujets contacts et à pouvoir les isoler. Avec toutes ces mesures, si on arrive bien à les organiser, je pense qu'on réussira à atténuer cette remontée de l'épidémie.
Professeur Amouyel, vous êtes, je l'ai déjà dit, donc professeur en santé publique. On n'a clairement jamais vécu un épisode sanitaire de cet ordre-là en France, on est d'accord. Alors, c'est vrai, il y a eu la canicule avec les nombreux décès il y a plusieurs années, mais ça n'a rien à voir. Est-ce que là, toute une population confinée, vous pensiez, vous, en tant que spécialiste, que professeur en santé publique, qu'on aurait un jour à vivre ça?
Non, quand je voyais mes collègues italiens là qui commençaient à se confiner, je pensais pas que ça arriverait en France également. Voilà, on peut toujours se tromper. Je crois qu'il y a eu des expériences là-dessus. Je crois que c'est une question de génération. Il y a eu l'épidémie de grippe de Hong Kong, il y a eu l'épidémie de grippe espagnole. Alors on est dans d'autres conditions, dans un autre siècle, avec d'autres traitements, avec d'autres prises en charge, pardon. Mais je pense que l'humanité a déjà eu à faire face à ça, y compris la société française. Et je crois que l'intérêt de cette crise sanitaire, ce sera de nous apporter une compréhension en grandeur réelle de la façon dont on doit gérer ces crises, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, on risque d'en avoir d'autres dans les années, voire dizaines d'années à venir.
Ah oui. Docteur Jimmy Mohamed.
Alors professeur, vous êtes également chercheur, et ce qui se passe en ce moment du côté de la recherche, ça me semble assez surréaliste. Alors mon expérience, elle est vraiment ridicule par rapport à la vôtre, mais j'ai quand même l'impression qu'on n'a jamais vu autant de nombre d'essais cliniques monter dans un laps de temps si court. C'est du jamais vu, non?
Alors oui, c'est du jamais vu, c'est-à-dire que l'urgence... je pense aussi un peu la médiatisation de la recherche et des médecins a poussé beaucoup de chercheurs à essayer de produire. Alors vous savez qu'on a des systèmes de contrôle de notre production scientifique par de ce qu'on appelle des gens qui revoient les articles, par des revues scientifiques de haut niveau. Et à ce moment-là, on a vu complètement exploser ces barrières en vol. C'est-à-dire que les excellents papiers qui étaient publiés arrivaient avec des papiers sur lesquels on n'avait pas d'idée claire ni de la qualité, qui n'avait pas été challengée par d'autres chercheurs. Donc ça a rendu l'analyse extrêmement complexe, et je crois que vous, en tant que journaliste, vous avez l'habitude de ce genre d'éléments de papier publié, et la question de se poser, je passe à côté de quelque chose parce qu'on va extrêmement vite, on a besoin d'aller vite, et je quand même prends le temps de réfléchir, c'est cette frontière qui a été franchie parfois à tort dans certains sens.
Et oui, parce que dans les publications scientifiques qui ont fleuri hein, ces derniers jours, ces derniers mois, il y a forcément des résultats, des choses qui n'étaient pas fiables, qui n'ont pas été bien vérifiées. La vitesse et la précipitation, ça a aussi mis en avant finalement des résultats peu corrects. Hein, je veux dire, vous comprenez ce que je veux dire? Des choses qui seront peut-être retirées des publications, enfin c'est possible ça aussi.
Bah, il va falloir voir maintenant si, après que toute cette pression soit retombée, les revues quand même prennent ces publications, parce qu'un jour, il faudra qu'on travaille dessus, qu'on les cite, qu'on y réfléchisse. Mais je crois qu'un certain nombre, voire un grand nombre, parce qu'il y a eu quand même à un moment près de 3500 publications qui sont sorties en deux mois, ce qui est absolument énorme, sur un seul sujet, sans temps, hein, qui était le Covid. Donc il va bien falloir faire un tri dans tout ça, avec d'excellentes, hein, je dois reconnaître, hein, je vais prendre un exemple, l'étude qu'ils ont faite de simulation sur le Diamond Princess, ce fameux bateau qui est arrêté près du Japon, a été un modèle excellent de la transmission du virus, quasiment expérimental. L'autre exemple du papier qui est sorti samedi par les Anglais sur l'ensemble de la population anglaise à partir de données électroniques sur les facteurs de risque de décès du Covid est aussi un excellent papier. Donc voilà, il y a des choses qui sont excellentes et il ne faut pas se voiler la face et bien utiliser ces différentes publications.
Merci professeur Amouyel. On n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve dans quelques minutes.
Europe 1.
Dans un instant, le professeur Amouyel va nous parler de cet outil qu'il a mis en place, justement un outil très utile pour ce début de déconfinement. Avec plusieurs experts, ils ont lancé le Covid Score qui permet à chacun d'évaluer son risque personnel vis-à-vis du virus par rapport à la population générale. On vous explique tout ça juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1.
Sans rendez-vous.
Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors il est toujours en ligne avec nous, le professeur Philippe Amouyel. Vous êtes professeur de santé publique au CHU de Lille et directeur de la Fondation Alzheimer. Professeur, avec la sortie du confinement, de nombreuses personnes s'interrogent, et à juste titre, sur leur niveau de risque personnel vis-à-vis du virus qui circule toujours, on le sait. Et justement, le Covid Score que vous avez créé avec 8 autres experts, il sert à ça, je crois. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Mais on s'est rendu compte finalement que ce qui était le plus important, c'était de savoir, en tant qu'individu, d'être capable d'estimer le risque que l'on avait lorsque l'on sortait de... Alors, attraper le Covid, on peut toujours l'attraper puisque c'est une maladie qui circule, mais surtout d'en faire une forme grave avec des complications qui pouvaient entraîner le décès. Donc on s'est dit, on va essayer de mesurer de manière très simple, par un test colorimétrique extrêmement simple, le niveau de risque. Alors, pas pour ni effrayer les gens, ni quoi que ce soit, mais responsabiliser les gens par rapport à leur action. Par exemple, je dois accompagner mes enfants à l'école, je dois faire garder mes enfants par mes grands-parents. Est-ce que je peux évaluer le risque que cela représente pour mes grands-parents ou pour moi-même de faire ces différentes actions? Donc on a construit ce score qui s'adresse à des personnes en bonne santé, sans antécédents de maladies chroniques comme les maladies cardiaques, cardiovasculaires, les maladies rénales, les maladies respiratoires, ni ayant de grossesse en cours. Pourquoi ? Parce qu'on sait que dans ces situations-là, la vigilance doit être maximale, le risque est extrêmement important. En revanche, tout un chacun a un certain risque, lorsqu'il n'est apparemment en bonne santé, de développer une forme grave et d'en décéder. Et c'est ça qu'on a voulu aider les gens à estimer et à mesurer.
Et comment ça fonctionne concrètement? On va sur un site internet, on remplit... Enfin, expliquez-nous comment se passe l'élaboration, enfin, comment on fait ce test à la maison par exemple.
Alors c'est extrêmement simple, vous allez sur internet, soit avec votre téléphone mobile, soit avec votre ordinateur, vous tapez www.covid-score.fr. Là, à ce moment-là, on va vous expliquer ce qu'est le Covid Score et on va vous faire une mesure en trois temps. La première, c'est de mesurer votre corpulence. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a trois facteurs qui sont à l'origine de ces complications. C'est des facteurs majeurs. Le premier, c'est l'âge. Le deuxième, c'est le sexe. Et le troisième, c'est la corpulence. L'âge, au-delà de 55 ans, on voit que le risque se met à augmenter de manière extrêmement importante. Le sexe, les femmes font des formes beaucoup moins graves que les hommes. Donc les femmes sont apparemment un peu plus protégées de ces formes graves. Et enfin, notre niveau de corpulence, c'est-à-dire est-ce qu'on a un poids trop important par rapport à notre taille. Donc ce qu'on fait avec ce test, la première étape, c'est d'abord d'estimer sa corpulence, parce que c'est le rapport du poids sur la taille.
C'est le calcul, l'IMC, hein, c'est ça, je l'ai
fait. Exactement, indice de masse corporelle. Ouais. Exactement.
On rentre juste la taille, étape, son poids, et ça calcule pour nous.
Et ça calcule pour vous. Et à ce moment-là, vous allez dans un tableau où on voit deux groupes, les hommes, les femmes, différentes catégories niveau d'IMC et différentes catégories d'âge. Et vous vous situez dans ce tableau avec un code couleur qui va du vert au rouge. Et plus on progresse vers le rouge, plus le risque augmente. C'est extrêmement simple. Alors, on n'a pas donné de valeur absolue, on préfère donner cette image colorimétrique. Il y a un autre exemple qui marche assez bien dans ce contexte qui est aujourd'hui le Nutri-Score. Donc on a monté ce Covid-Score un peu dans ce sens-là, parce que les gens commencent à avoir cette habitude de cette, entre guillemets, signalisation. Alors forcément, c'est extrêmement simple, mais c'est pour vraiment que tout le monde puisse se l'approprier et ensuite l'utiliser soit pour lui-même, soit pour son entourage, et ainsi voir comment il peut organiser sa vie en fonction des risques qui existent.
C'est vrai, c'est très simple. Hein. Je l'ai fait, ça se fait vraiment en quelques secondes et c'est très pratique et très lisible très facilement. Jimmy Mohamed.
Oui, je l'ai fait aussi. Franchement, bravo. C'est un score qui est très simple, qui parle tout de suite. On a un code couleur, on a un chiffre et on le sait. Mais concrètement, si on le fait par exemple pour nos parents, vous l'avez dit, le tout, c'est pas de finalement de vivre comme des ermites. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va peut-être faire un peu plus attention, c'est ça, pour les personnes plus fragiles? Je l'ai fait pour mon père. Son score, le score de mon père est forcément plus élevé que le mien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire justement aux personnes plus fragiles?
Exactement, c'est exactement l'idée. Je vais prendre un exemple très concret rapidement. Vous avez 35 ans, vous avez une corpulence normale, vous êtes marié avec une femme de 33 ans qui a une corpulence elle aussi normale, deux enfants de 3 et 5 ans. Donc le risque de cette famille est très très faible de contracter le Covid et en décéder. Mais vous devez faire garder vos enfants parce qu'on est en sortie de déconfinement et d'habitude c'est les grands-parents. Le grand-père par exemple est âgé de 70 ans et il va avoir une surcharge pondérale qui va l'amener à un Covid score rouge. Mais sa grand-mère, en revanche, qui va avoir 65 ans avec une corpulence normale, va avoir un risque faible. Donc la solution, à ce moment-là, s'ils n'ont pas d'autres solutions de garde, c'est vraiment de voir si c'est pas la grand-mère qui peut s'occuper des enfants et que le grand-père reste éloigné en leur présence et respecte scrupuleusement les barrières au sein de son couple. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le gouvernement a sorti des couleurs de département qui montrent que le virus circule plus ou moins dans ces départements. Et je pense que s'ils sont dans un département rouge, il faut absolument qu'ils trouvent une autre solution de garde pour leurs enfants. Donc vous voyez, c'est à ça que doit servir ce Covid-Corp, de vous aider
ça,
à prendre certaines
décisions. Applications très pratiques, hein, c'est vrai, hein, c'est vraiment très
concrète,
bien, effectivement.
Voilà.
Ça ne veut pas dire, si je suis rouge, que je suis puni dans votre score et que je dois rester chez moi jusqu'à Noël, hein, c'est pas ça l'idée,
c'est
pour s'orienter, hein,
ouais. C'est exactement pour s'orienter. C'est-à-dire que la mesure essentielle, c'est la mesure barrière, la distanciation, c'est le masque, c'est le test au besoin, c'est l'isolement au besoin. Et ça, que vous soyez vert ou rouge. La seule chose, c'est que si jamais, malheureusement, vous rencontrez le virus et que vous êtes rouge, vous risquez plus de faire une forme compliquée que si vous êtes vert. Mais ça ne change rien au fait qu'il faut stopper la progression du virus, la ralentir le temps que les chercheurs trouvent traitement des vaccins pour qu'on règle la solution.
Professeur Amouyel, vous qui êtes directeur de la Fondation Alzheimer, pour terminer, on va quand même parler un petit peu de ces patients. J'imagine que le confinement, alors qu'il vient de toucher à sa fin, mais cette épidémie, pour les patients Alzheimer ou pour leurs proches, ça a dû être une difficulté assez folle, hein, parce que j'imagine que vivre confiné avec quelqu'un qui a atteint de la maladie d'Alzheimer, il y a eu des difficultés qui sont remontées du terrain.
Oui, bien sûr. Alors, les difficultés qui sont remontées, mais directement au centre 15, c'est dans les maisons qui hébergent des personnes âgées dépendantes. Puisque l'espace est relativement confiné, malheureusement, et il n'y a pas nécessairement toutes les mesures, ils n'avaient pas tous les outils à l'époque. Donc ça a amené réellement des drames à plusieurs niveaux. Au niveau des soignants, qui ont beaucoup souffert, c'est eu des moments extrêmement pénibles. Au niveau des personnes elles-mêmes qui étaient isolées, et là je voudrais saluer tous ces soignants qui se sont dévoués, qui ont continué à animer ça malgré ce confinement massif qu'il y a eu dans les EHPAD, à juste titre, hein, par ailleurs à juste titre, et surtout la séparation des familles. On peut se poser la question à un moment si cette séparation peut être réellement utile pour le patient, dans la mesure où il va se retrouver seul, il va perdre ses repères, il va être isolé. Donc quand on a réautorisé les visites dans les EHPAD, ça a été un élément extrêmement positif. Maintenant, quand les gens étaient à domicile, l'enjeu c'était surtout de ne pas contaminer le patient, puisque lui est extrêmement fragile avec sa maladie d'Alzheimer et toutes les complications qu'il peut faire. Donc vraiment, ça a été un enjeu chez ces personnes, tant chez les patients, mais aussi chez les aidants, et aussi chez toute personne qui, malheureusement, a un papa ou une maman ou un grand-père ou une grand-mère qui est hébergée dans ces maisons. Ça a été une épreuve extrêmement, extrêmement difficile, et j'espère que cette sortie de déconfinement va un peu alléger leur vie.
Merci beaucoup, professeur Amouyel, d'avoir été avec nous, et notamment pour nous présenter donc le Covid Score, un outil qui va être très utile dans cette sortie du confinement. Merci encore.
Europe 1.
Dans un instant, avec le docteur Jimmy Mohamed, nous allons prendre le temps de répondre à quelques-unes de vos questions, celles nombreuses que vous nous laissez tous les jours sur le répondeur d'Europe 1, le 3921. Tout ça, c'est dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission santé. À mes côtés, toujours bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et à présent, Jimmy, on va prendre le temps de répondre à quelques-unes des nombreuses questions que vous, auditeurs d'Europe 1, vous nous avez laissées sur le répondeur, le 3921. On va commencer par la question d'Evelyne. On l'écoute.
Voilà, nous aimerions savoir, mon époux et moi, pendant cette pandémie, quelle est la distance vraiment à respecter l'un vis-à-vis de l'autre, sachant que mon époux ne sort pas du tout. Moi, protégé bien sûr au niveau des courses nécessaires. Est-ce que on peut aussi simplement se prendre dans les bras l'un de l'autre, sans s'embrasser bien évidemment. C'est très important, je pense, au niveau relationnel. Merci.
Bon, Jimmy, dans un couple, c'est peut-être un peu excessif. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on peut répondre à Evelyne ? Dites-moi.
Oui, c'est vrai qu'on passe du tout ou rien. On veut absolument ne plus rien faire. Alors que si on considère que cette dame, lorsqu'elle fait ses courses, elle se protège, elle met un masque, elle se lave les mains, elle respecte les distances de distanciation physique, eh bien, on peut considérer qu'elle a très faible risque. Et donc, lorsqu'on est à la maison et qu'on n'a pas de symptômes, on se comporte de façon normale. En revanche, si on est un cas contact de quelqu'un qui a été malade, c'est-à-dire
là,
que
c'est différent,
finalement,
bien sûr.
Voilà, on a croisé la voisine, on est resté parlé, on n'avait pas de masque. Et bien là, à ce moment-là, il faut respecter une distance, il faudra se faire tester. Mais au sein du couple, oui, on a besoin de contact, on a besoin de câlins, on a besoin d'amour.
De s'embrasser, et donc, bien sûr.
Bah oui, embrassez-vous, faites comme d'habitude. Si vous n'avez pas de symptômes, soyons un peu raisonnables, même si on vit une période très particulière. Moi, je pense que, voilà, à la maison, on
fait
comme
d'habitude. Au sein du même foyer, voilà.
Exactement.
Ça, on fait comme d'habitude.
En revanche, quand on est malade, là, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a eu des épidémies intrafamiliales liées au fait que les gens n'avaient pas de masque. Or, désormais, on pourra avoir des masques, on pourra se faire tester. Donc, on est dans une autre perspective, mais pas de symptômes, pas de distance à la maison, en tout cas.
Très bien. Jimmy, on va répondre à une autre question qui nous a été envoyée par Florian via Twitter. Alors, il nous demande si les cabinets dentaires rouvrent leurs portes tous dès aujourd'hui, car il avait annulé son détartrage, dit-il, prévu initialement fin mars. Jimmy, peut-être que les dentistes vont faire par ordre de priorité. Enfin, j'imagine qu'un détartrage, c'est peut-être pas la plus grande des priorités. D'ailleurs, ils ouvrent peut-être même pas tous aujourd'hui, je ne sais pas.
Non, ils sont en train d'ouvrir progressivement, ils sont en train de s'organiser puisque désormais il faut vraiment mettre des outils spécifiques, très peu de malades, aérer au moins 15 à 20 minutes entre deux patients, se fournir en équipement, rester toute la journée avec ses masques FFP2, c'est loin d'être évident et donc évidemment ils sont en train d'ouvrir très progressivement mais forcément ils vont voir beaucoup moins de malades et étant donné que les soins dentaires ont été mis de côté pendant un moment hors urgence, eh bien forcément...
Parce que très à risque, hein, le soin dentaire, on est d'accord, pour le professionnel s'il n'est pas équipé, il y a un fort risque de contamination possible puisqu'il travaille tout près de la bouche des patients.
Exactement, raison pour laquelle les cabinets étaient fermés. Et donc, à ce moment-là, les cabinets ouvrent et vont faire par ordre de priorité car il y a des gens qui ont malgré tout, alors qu'il y avait des urgences dentaires, laissé traîner des douleurs de peur d'aller chez le dentiste ou finalement s'ils n'ont pas eu d'accès aux soins. Donc, je pense que le détartrage va attendre encore un petit peu. Mais d'ici quelques semaines ou quelques mois, on peut espérer un retour à la normale. Mais pour l'instant, c'est simplement les urgences qui sont encore traitées.
Alors, on va prendre une autre question, Jimmy, qu'on a reçue au 39-21. Celle-là, c'est celle de Daniel. On l'écoute tout de suite.
Je voulais savoir... Si les visières, avec donc la feuille en plastique transparente, sont aussi efficaces que les masques. Merci.
Jimmy, les visières versus les masques, alors c'est pas la même protection hein, de toute façon.
Non, la visière sert essentiellement à la base à éviter de recevoir des postillons et surtout des postillons au niveau des yeux. Ça va se comporter un petit peu comme des lunettes et donc ça ne remplace absolument pas un masque. Alors évidemment, c'est toujours mieux que rien, mais quelqu'un se met à tousser dans une pièce, notamment par exemple dans les transports en commun, il y a des gouttelettes qui vont se transporter, qui vont passer sous cette visière et vous allez être contaminé. Donc vous allez peut-être limiter un petit peu le risque, mais c'est clairement insuffisant. Il faut un masque, soit un masque chirurgical à usage unique, soit un masque que vous achetez en pharmacie aussi, qu'on peut réutiliser, qu'on peut laver, mais la visière est simplement utile pour protéger les yeux et plutôt pour les professionnels de santé qui sont exposés à des gestes invasifs et pas tellement pour le grand public.
Mais pour le grand public, c'est le masque et vraiment, vraiment dans les transports en commun, c'est de toute façon obligatoire. Merci Jimmy. Alors on va prendre une autre question, celle-là on l'a reçue aussi sur les réseaux sociaux, c'est la question de Zouer qui a vu à la télé les images justement de la ligne 13. Bah, vous voyez, on reste toujours sur les masques en fait. Bondé ce matin, il demande si le fait que tout le monde soit bel et bien masqué, ça suffit finalement à protéger tous ces gens ou pas?
Oui, c'est vrai que c'est des images terribles où la distanciation physique n'est absolument pas respectée. Entre nous, on savait très bien que ça allait être compliqué. En revanche, les images sont plutôt rassurantes dans le sens où au moins les gens ont des masques. Effectivement, c'était obligatoire. Alors, de toute façon, lorsqu'on parle de protection, c'est un triptyque, c'est le lavage des mains, la distance et les masques. Et évidemment, si vous retirez la distance, vous vous exposez de façon supplémentaire à un risque. Mais on peut quand même essayer d'être optimiste en disant que si deux personnes ont un masque, si elles ne toussent pas, si vous ne faites pas n'importe quoi... on réduit au maximum ce risque, sachant que les métros, les zones de transport, dans certaines études, sont de vrais foyers de dissémination de l'épidémie avec 35% de contamination. Donc, soyez prudents. Quand vous le pouvez, évidemment que ce n'est pas le cas pour tout le monde, essayez de prendre votre vélo, d'y aller à pied. Mais voilà, c'est vrai que la distance, elle est aussi importante et les images sont un peu terribles. Mais au moins, les gens étaient masqués.
Très bien. Allez, on va en prendre une cinquième et dernière question pour cette série-là aujourd'hui. On continuera à répondre à vos questions demain. C'est la question de Marie-Cécile au 39-21. On l'écoute.
Je travaille dans une bibliothèque qui va rouvrir. Chaque lecteur rend ses livres via un automate et les dépose sur une étagère. Combien de temps faut-il laisser reposer les livres sur l'étagère pour que le virus devienne inoffensif, sachant qu'on retrouve dans les livres des restes de nourriture et de grattage de nez. Voilà, au revoir.
C'est dégoûtant. Jimmy, bon, sur le virus, je ne sais pas si vous avez le chiffre oui. exact, c'est difficile hein, de savoir.
Je rigolais pour les crottes de nez, mais de toute façon, c'est 3 jours sur une matière plastique, 2 jours sur de l'acier et 24 heures sur du carton. En revanche, on pense comme malgré tout que la contamination à travers d'objets est extrêmement faible. Il faudrait que quelqu'un tousse sur le livre, que vous, derrière, vous mettiez votre main sur le postillon, sachant que...
Les crottes de nez, apparemment, donc...
Oui, mais malgré tout, le virus est extrêmement fragile, il ne résiste pas normalement dans le temps, ni sur une surface extérieure, et donc il va très vite ne plus être actif. Et il faudrait que vous ayez frotté votre main sur le livre et que vous mettez ensuite la main à la bouche pour tomber malade. Donc voilà, peut-être qu'on peut être un peu raisonnable. Je ne sais pas s'il faut aller jusque-là. Aucune étude ne prouve à ce jour la transmission à travers d'objets tels que les livres. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas de chiffres à donner. Un jour ou deux, quoi qu'il arrive, lavez-vous les mains et ne léchez pas les livres ni les crottes de nez qui sont dedans.
Ah ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est sûr. Dans les crottes de nez, à mon avis, là, il peut y avoir du virus. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed, pour toutes ces précisions.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant avec la partie bien-être de notre émission. Et aujourd'hui, on va écouter les conseils d'une psychologue de l'éducation nationale, Mélène Descamps. Elle va nous aider à bien préparer les enfants qui vont retourner à l'école, et les autres aussi d'ailleurs, ceux qui vont continuer la classe à la maison. Comment les aider à rester bien dans leur basket? D'abord, place à la musique sur Europe 1 avec France Gall et son morceau culte, on écoute Résiste.
Amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Du bien, un peu de musique sur Europe 1. C'était Résiste de France Gall sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed pour votre émission Santé. Et à présent, c'est la partie bien-être de cette émission. Une partie bien-être dans laquelle on va parler des enfants aujourd'hui avec vous, Mélène Descamps. Bonjour. Bonjour Mélène Descamps.
Vous m'entendez bien ?
Ouh là là, non, on ne vous entend pas bien du tout. Alors attendez, essayez peut-être de vous déplacer un petit peu. Jimmy, vous êtes toujours là, vous ?
Oui, j'essaye de me déplacer. Vous m'entendez pas bien ?
Alors on va essayer. Donc je rappelle que vous êtes quand même psychologue de l'éducation nationale. On voulait parler avec vous et on va essayer de le faire. On va voir si la technique s'arrange un petit peu, si on arrive à récupérer une ligne de meilleure qualité. On voulait parler de la rentrée avec vous des enfants et peut-être commencer d'abord par les professeurs, finalement les instits qui vont être en première ligne. Pour eux aussi, ça peut être très anxiogène. On imagine ce retour à l'école. Est-ce que vous sentez, vous avez des retours de ce côté-là, un stress particulier parmi les enseignants ou pas ?
bien sûr, il y a certains enseignants qui ont des difficultés à appréhender cette rentrée parce qu'on est dans l'inconnu. Il y a des craintes sur la sécurité, sur la santé. C'est aussi très compliqué à organiser. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Parce que
non, je crois qu'on va essayer de vous rappeler d'une autre façon. Jimmy, vous êtes là, vous, on va essayer de joindre Mélène Descandes d'une autre manière, peut-être par une autre ligne. J'attends des nouvelles de Benjamin, notre assistant, qui va nous dire si on arrive à récupérer une ligne de meilleure qualité. Jimmy, la rentrée des classes, vous voyez, les consultations, vous en avez tous les jours encore, hein, vous consultiez encore ce week-end, on a échangé par SMS. Donc vous voyez des familles, des enfants qui se préparent. Est-ce que sur le terrain, vous avez l'impression que ce retour à l'école, il va se faire, pas se faire? Comment ça se passe?
Alors c'est vrai que c'est très particulier, puisqu'il y a effectivement la crainte de remettre les enfants à l'école, mais d'un autre côté, je discutais avec mon voisin qui est psychologue. Alors voilà, il est psychologue dans un CMP. Il explique que pour certains, vraiment, la reprise de l'école est nécessaire. Il nous parlait notamment de cet enfant qui a 9 ans, dont la maman a décidé d'appliquer exactement les mêmes règles pendant la période de confinement qu'à l'époque où ils allaient à l'école, c'est-à-dire qu'elle limite la télévision, elle limite absolument les jeux vidéo, et cette petite fille n'a absolument aucun moyen alternatif pour s'amuser. Et donc ça fait 2 mois qu'elle vit un enfer, elle est diabétique, elle mange du sucre en cachette, elle prend du poids, et donc ce confinement a été vécu de façon terrible pour elle, d'autant plus que c'était une petite fille qui est extrêmement sociable, sauf qu'au moment du confinement, elle n'a récupéré aucun numéro de téléphone de ses petits copains, et donc elle se retrouve seule.
Et pour elle, avec l'école, ça doit être
c'est une coupure terrible. Et donc, c'est ces cas assez dramatiques. Et on se dit, finalement, l'école, c'est
l'école
inachépatoire.
L'école sera salutaire. Ouais,
exactement. Sûr. Et donc, on n'est pas tous logés à la même ancienne. Certains ont la chance de pouvoir garder leurs enfants, et tant mieux. Mais sinon, pour les autres, ça reste vraiment vital. Donc, soyons patients et espérons que ça se passe bien.
Mélène Descamps, je crois que vous êtes de retour avec une liaison apparemment un peu meilleure. On parlait des professeurs, donc ils le vivent de manière comment? Assez anxiogène, ce retour à l'école, ou ça va? Quels sont vos retours du terrain?
Alors, du terrain, c'est très variable, évidemment. C'est un gros travail d'équipe qui demande beaucoup de préparation. Effectivement, il y a des questionnements, des inquiétudes, mais tout est mis en place pour que ça se passe au mieux. Bien sûr, la sécurité est au premier plan pour bien accueillir les enfants. On est dans une situation extrêmement inédite, avec encore des inconnus par rapport à... les risques qui peuvent être pris. Donc il ne faut laisser aucun détail de côté. Ça demande beaucoup de travail. Et le fait de travailler en équipe, ça aide beaucoup les professeurs. Mais évidemment, certains ont encore des angoisses, fatalement. Et certains, d'ailleurs, il y en a beaucoup qui ne sont pas obligés de revenir. Tout le monde ne reprendra pas. Beaucoup resteront en télétravail.
Et oui, parce qu'ils sont souvent parents et justement eux-mêmes doivent garder parfois leurs enfants qui ne reprennent pas l'école. Comment vous prévoyez ce retour, vous, du côté de la médecine scolaire, des psychologues scolaires? Vous attendez à récupérer, par exemple, beaucoup d'enfants qui ont été fragilisés, comme ce qu'a décrit Jimmy avant, cette petite fille diabétique et très isolée. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir beaucoup d'enfants avec des conséquences psy, finalement, assez lourdes de ces 2 mois de confinement?
Et oui, c'est à redouter, effectivement, parce que le confinement a été difficile à vivre pour certains enfants. Tout le monde n'a pas traversé cette période de la même façon. Et nous sommes tout à fait mobilisés et vigilants pour repérer les enfants qui auront des besoins, les familles qu'il faudra accompagner et soutenir. Vous le savez tous, qu'il y a eu des augmentations de violence, de stress. Et comme les enfants vivent beaucoup aussi cette période à travers les adultes qui les entourent, il va s'agir de les rassurer, de les accueillir au mieux et effectivement de travailler avec eux.
Docteur Jimmy Mohamed.
Comment est-ce qu'on prépare le retour à l'école des enfants? Est-ce qu'on leur explique que ce ne sera pas la même école d'avant et que là, on est dans une situation un peu de bricolage, ou en tout cas temporaire?
Alors, il faut éviter de dire que c'est du bricolage, mais en revanche, il faut bien leur expliquer que ça ne sera pas comme avant. On ne retourne pas à l'avant, c'est important. Il faut bien les informer, les enfants, mais en même temps leur fournir une information rassurante en leur disant il va se passer ça, etc. Les mettre en charge un petit peu de tout ce qui va se passer, c'est-à-dire on va te demander de faire des choses pour que tout le monde ensemble soit en sécurité et de bien écouter. On va bien écouter ce qu'on va dire les enseignants. Ils vont être informés. On va prendre du temps pour les accueillir, pour les écouter et pour leur expliquer ce qu'on attend d'eux. Ils seront avec moins d'enfants avec eux, donc ce sera quand même, on peut leur montrer les avantages aussi. Il y aura un enseignant pour moins d'élèves, donc qui aura plus de temps pour eux. Et nous sommes tous mobilisés pour répondre aux besoins de tous les élèves.
Mélène Descamps, on va s'arrêter quelques minutes. On n'en a pas terminé avec vous, on se retrouve juste après.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer à parler de la rentrée scolaire pour les enfants qui y retournent et même finalement pour ceux qui n'iront pas. Comment s'organiser, comment rester organisé, comment ne pas trop les perturber. On continue de vous en parler dans quelques toutes petites minutes. Restez sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors elle est toujours en ligne avec nous. Mélène Descamps, vous êtes psychologue de l'éducation nationale. Alors la reprise de l'école, hein, pour certains ça sera demain, pour d'autres jeudi, il y en a même qui ont repris dès aujourd'hui. Et encore bon, ils n'iront pas tous en classe a priori tous les jours. Ça va être compliqué quand même pour eux, pour les enfants, cette organisation qui est plus du tout la même, des règles presque militaires. C'est quand même pas la joie pour eux de retourner en classe dans ces conditions, on est d'accord ?
Oui, tout à fait. Hein. Ce n'est pas un retour à l'avant et il va falloir du temps pour s'adapter à ces nouveaux rythmes. Mais les enfants, justement, sont capables, hein, de s'adapter. Il faut leur faire confiance. Ils sont résilients et les adultes vont tout mettre en place. Hein. C'est leur rôle pour justement baliser ce retour avec des rythmes tout à fait différents et des façons d'apprendre peut-être changées également.
Docteur Jimmy Mohamed.
Et comment faire justement avec les plus jeunes, notamment maternelles ? Alors je crois qu'ils ne rentreraient pas tout de suite, mais j'ai vu des règles assez strictes, assez surréalistes. Comment est-ce qu'on pourrait...
Les grandes sections, je crois seulement, hein, pour l'instant.
Oui, mais même les grandes sections, ça me semble assez compliqué. Les jeux, on n'a pas le droit d'y toucher. Est-ce qu'il faut essayer justement de montrer ça de façon ludique ? Je ne sais pas si celui qui a le moins touché un objet gagne à la fin de la journée quelque chose. Comment est-ce qu'on fait pour expliquer à un enfant de grande section comment ne pas être stressé ?
Alors, justement, les parents peuvent accompagner, hein, les enfants. Pour cela, ils peuvent jouer à des petits jeux. Il y a plein de choses en ligne s'ils veulent le faire. Mais les enseignants vont faire ce travail, hein, vont leur apprendre. Il y a des tas de choses qui sont prévues pour qu'ils s'approprient justement un minimum de gestes sanitaires. Mais tout cela, bien sûr, sans trop les stresser, hein, et en les aidant à s'emparer de ces nouvelles habitudes qu'il va malheureusement tous nous falloir prendre pendant un certain temps en tout cas. Et les
Est-ce
enfants peuvent apprendre beaucoup de choses.
Est-ce que la répétition à la maison, là, pendant, c'est presque fini, il y en a certains qui retournent dès demain, mais à la maison, répéter les gestes barrières, on se lave bien les mains, on tient la durée qu'il faut. Est-ce que ça peut les sécuriser d'avoir déjà bien répété à la maison tous ces gestes, expliquer qu'il ne faut pas être à plus d'un mètre, à moins d'un mètre, tout ça. Est-ce que ça sécurise un enfant ?
Alors, ce qui sécurise surtout un enfant, c'est de sentir que ses parents sont en confiance. Donc, si on le fait de façon joyeuse, en faisant avec des petites comptines, en faisant avec des petits jeux, en le prenant d'une façon positive, oui, ça peut aider l'enfant à reprendre un sentiment de contrôle, à l'aider à appréhender un petit peu mieux tout cela. Mais si on se sent peu à l'aise et que ça génère du stress, il vaut mieux laisser les enseignants se charger de les faire réviser, hein, ces gestes-là qui sont relativement simples et ils auront leurs camarades qui feront pareil, donc ça sera peut-être plus facile. Il faut le faire si on le sent, en disant bah, ça tu vas pouvoir bien montrer à tes copains comment on fait, tu as peut-être une petite comptine, un petit jeu pour le faire. Il y a plein de petites façons relativement ludiques, hein, de s'approprier toutes ces nouvelles consignes sanitaires.
Ouais. Docteur Jimmy Mohamed.
Oui, c'est vrai que le côté ludique est très important. J'ai reçu notamment les devoirs, j'ai un fils qui est au CP et une petite comptine qu'on va devoir chanter ensemble ce soir s'appelle les gestes barrières, c'est bien notre affaire. Alors je vous passe l'horreur de vous la chanter, mais dans le refrain il y a Atchoum dans mon coude ou bien l'autre coude si tous par là vise le pli du bras, et je trouve que c'est une façon plutôt sympa de... Non mais je trouve ça ludique, c'est peut-être c'est moins anxiogène,
voilà,
pour les enfants. Mais si
c'est
malgré l'esprit. Tout, l'enfant, moi j'ai demandé à mon fils, est-ce que tu veux retourner à l'école ? Et il m'a dit non. Qu'est-ce qu'on fait d'un enfant qui ne veut pas ? Est-ce qu'on va devoir le forcer ? En tout cas, si on a le choix, en tout cas, de ne pas le garder à la maison.
Alors, si ce qu'il faut, c'est écouter ce qui lui fait peur et voir, essayer de gentiment le rassurer. Et qu'est-ce qui l'inquiète exactement ? Essayer de l'aider à élaborer ses propres réponses pour gérer, hein, ce qui va se passer. Finalement, tous les enfants ont une peur, une appréhension un petit peu de l'inconnu. Certains ont un plaisir à retourner qui leur fait surmonter cette appréhension. Mais il est normal qu'ils qu'ils vivent ça. Hein. Personne n'a jamais vécu une rentrée sur ce mode-là. Donc, il faut leur dire, c'est normal que tu ressentes un petit peu voilà, de la peur. Mais qu'est-ce qui pourrait te rassurer? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Et on va poser la question. Tu vas aller voir demain, tu vas voir comment ça se passe. On pourra. Il faut vraiment lui expliquer qu'il va pouvoir s'emparer de tout ça et que les adultes à l'école n'ont pas... Une mission principale, c'est de les faire se sentir bien et en sécurité. On ne va pas tout de suite se remettre à travailler. Il y a tout ce temps d'accueil pour que les enfants se sentent bien, soient contents, soient en sécurité. On ne va pas partir. C'est bien. Les instructions sont bien claires. Hein. On va prendre le temps de refaire du lien.
Mais Mélène Descamps, ils ont besoin d'avoir un rythme, les enfants, on le sait. Vous étiez déjà venu nous en parler dans l'émission en début d'année pour la rentrée scolaire, la vraie, celle-là. Les enfants qui vont pas y aller tous les jours, il y en a qui vont y aller 2 jours par semaine, certains un jour, d'autres qui vont pas y aller du tout. Comment on fait pour garder un rythme à la maison? C'est-à-dire que la semaine, il faut respecter les horaires de coucher. Enfin, ça, est-ce que ça, c'est important pour qu'il y ait une petite stabilité quand même?
Oui, tout à fait, vous avez raison. Il faut, autant que faire se peut, garder un rythme régulier. C'est très important avec les enfants. Et plus ils sont jeunes, plus c'est absolument fondamental. Donc, c'est vrai qu'il est difficile. Hein, parfois, s'il n'y a pas école le lendemain, on a tendance à relâcher un peu. Mais idéalement, il faudrait vraiment leur donner des cadres et des rythmes, toujours dans la joie et la bonne humeur, hein, autant qu'on peut, mais qu'ils soient réguliers, les coucher tous les soirs à la même heure, essayer de ne pas trop les décaler, parce que ça contribue à les fragiliser s'ils ont des rythmes trop différents en fonction des journées.
C'est quoi le risque? C'est qu'ils dorment moins bien? Enfin, avoir un rythme, c'est important pour leur horloge biologique, c'est ça?
Voilà, pour l'horloge biologique, la quantité de sommeil est extrêmement importante. Il faut qu'ils aient suffisamment dormi, il faut qu'ils aient suffisamment bien mangé, il faut qu'ils aient aussi de l'activité physique, il faut qu'ils aient du temps de jeu libre. C'est important qu'ils aient aussi, les enfants ont besoin de routine et de cadre. Et là, dans un environnement aussi inédit, il est d'autant plus important de leur donner un cadre et des rythmes, parce que on en manque beaucoup, hein, surtout après toute cette période difficile.
Bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Mélène Descamps d'avoir été notre invitée pour nous aider à mieux préparer donc la rentrée ou pas des enfants à l'école. Merci beaucoup.
15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1.
Dans un instant, ce sera la chronique sexo de Catherine Blanc, comme tous les jours à la fin de cette émission. Mais avant ça, on va écouter un peu de musique avec la chanteuse Lubiana. Ça s'appelle Feeling Low.
When you're feeling low, when you're feeling down, 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 when you're feeling my... When you're feeling sad, sad, sad. When you're feeling slow and you're going low, low, low. When you hear the sound, don't you feel the flow? Sugar, open up your eyes when the sun comes up. Don't give up the fight, you will find way home. Hold on to your light, this will shine up. Sing no la 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 la. La 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 la. When you're feeling. Keep on fighting, 'cause empty bag and golden heart brings you something. Searching for an answer that ain't coming. Please open up your eyes when the sun comes up. Don't give up the fight, you will find way home. Hold on to your light, this will shine up. Sing la 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 la. La la la.
Vous venez d'entendre Feeling Low de la chanteuse belgeo-camerounaise Loubiana.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et puis pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc en ligne, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine.
Nous aussi, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors Catherine, aujourd'hui, on va prendre la question de Laure. Laure, elle a 31 ans et elle nous a écrit la chose suivante. Malgré la fin du confinement, j'hésite sincèrement à rencontrer de nouveaux garçons. Je pense plutôt revoir des ex que je connais bien et en qui j'ai confiance. Peut-être que la flamme pourra se rallumer. Qu'en pensez-vous ? Catherine, comment on peut expliquer cette peur de rencontrer un inconnu finalement qui va, je pense, toucher quand même pas mal de personnes, c'est possible.
Alors, oui, absolument. Parce qu'en fait, le confinement et la phobie du virus révèlent des choses qui sont enfouies en nous et pour certains d'entre nous, plus fortement, cette peur de la contamination que représente l'autre. C'est quelque chose qui, d'abord, participe de la construction psychique de tout individu. D'ailleurs, c'est ce qui fait que quand nous sommes petits enfants, nous trions le vert, du rouge, du blanc, tout ce qui est une couleur, d'ailleurs, un petit peu louche, toute couleur devient louche. D'ailleurs, il n'y a bien que le blanc qui est assez supportable. Et tout fait un peu peur. Tout est sujet à petites bêtes qui pourraient entrer en moi, ou microbes, ou caca. Et ça fait partie donc de notre construction de petit enfant. Et ça va se reporter sur des sujets qui sont des sujets à nouveau de notre construction, qui sont d'abord les sujets alimentaires, puis après les sujets autour de l'analité, et après les sujets sexuels, puisqu'il y a aussi de l'autre qui me transforme, puisque le propre de la sexualité se faisant fécondante est une transformation de l'un en direction de l'autre et réciproquement d'ailleurs, quand bien même l'autre n'est pas enceinte, il y a aussi l'idée d'être transformé dans sa vie, de passer d'un statut à un autre. Alors bien sûr avec le désir inconscient plutôt positif, mais avec la structure inconsciente qui elle souffre. Donc à l'occasion de ce confinement, eh bien ça a fait ressurgir cette idée que l'étranger, que la personne à côté est dangereuse, et du coup chez Laure, puisqu'elle est en recherche amoureuse, avec une idée d'urgence de chercher quelqu'un pour lui convenir, eh bien elle va plutôt avoir tendance à vouloir aller là où c'est du domaine du connu et du maîtrisable plutôt que l'immaîtrisable.
Dans les vieux pots de confiture. Alors, docteur Jimmy Mohamed.
Oui, moi je suis pas tellement d'accord avec l'histoire de pots de confiture. Moi je considère que le passé s'embellit de l'ennui du présent. C'est un proverbe que j'aime bien. Et ça veut dire que peut-être cette peur de l'inconnu, est-ce qu'il faut faire avec? Est-ce que malgré tout, il faut repiocher dans le passé? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se tourner vers ses ex?
En fait, c'est ni une bonne ni une mauvaise, parce que je pense que nous passons à côté de gens formidables et nous passons notre chemin avant même d'avoir élaboré tout ce que l'on pourrait créer avec eux. Donc, à ce titre, je trouve pas idiot de revenir vers ses premières amours ou premières curiosités pour pouvoir voir ce qu'on peut faire naître et émerger de tout cela et qu'on ne s'était pas donné la peine d'eux. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que dans le confinement, beaucoup de gens sont allés chercher dans leur passé des vieilles amitiés, des vieux souvenirs, les raviver, comme si tout d'un coup la peur de l'avenir se faisait et du coup on regardait un peu dans le rétroviseur. Donc il faut faire attention entre ne pas passer à côté de sa vie et toujours chercher du neuf pour essayer de grandir comme si c'était toujours dans le futur que nous serions, mais pas non plus ne faire que regarder dans le rétroviseur par peur de l'avenir, de notre avenir et de notre construction.
Parce que bon, aller voir des vieilles photos de famille et puis replonger avec un ex, c'est pas exactement pareil. Il y a peut-être un côté rassurant pour elle, parce que ce qu'elle craint peut-être aussi, c'est de tomber malade avec des gens qu'elle ne connaît pas, en qui elle a pas confiance parce qu'elle ne les connaît pas, et qu'un ex, elle se dit, il me dira au moins s'il est malade, il voudra pas me voir. Enfin, il y a peut-être de ça aussi, parce que je pense que ça a un rapport avec le virus quand même, tout ça.
Oui, bien sûr que ça a un rapport avec le virus, mais c'est bien au-delà du virus. C'est-à-dire que tous les événements de notre vie révèlent et réveillent nos anxiétés plus fortes que chez les uns que chez les autres, sur des sujets et sur d'autres. Donc bien sûr qu'il y a l'idée d'avoir confiance, mais comment voulez-vous aussi, même en ayant confiance en quelqu'un, si nous voyons par exemple tous les trois, avons confiance les uns en les autres, et on se sait les uns et les autres pas malades, mais avons-nous fait le test pour l'instant non. Donc en fait, c'est que notre sensation et notre bonne volonté. Donc c'est bien au-delà d'une seule confiance. On ne se trahirait pas pour autant.
Docteur Jimmy Mohamed.
Donc c'est toujours l'idée de la maîtrise par rapport à la non-maîtrise, de toute façon.
Bien sûr.
Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment reformer des couples en cette période un peu particulière? En quelque sorte, on se retrouve dans l'adversité et on fait face ensemble?
Oui, ça aussi, ça c'est effectivement. Je pense que dans les moments de difficulté, il est heureux de voir qu'autour de nous, nous avions déjà des réponses, nous avions déjà des solidités, nous avions déjà des gens sur qui compter, dont nous connaissons aussi les travers, mais dont nous connaissons les forces et les sécurités et la bienveillance qu'ils peuvent nous apporter et la complémentarité avec nous. Alors qu'un étranger, tout est à construire, à découvrir et bien sûr potentiellement désenchanté.
Merci beaucoup Catherine, merci Jimmy, merci Serge derrière les manettes, merci Benjamin. On se retrouve bien sûr demain à 15h. Vos questions au 39-21 sont toujours les bienvenues. 50 centimes d'euros la minute qui seront reversés à l'Institut Pasteur. Et à présent, je vous laisse avec Mathieu Noël et son équipe Sauvage. Bonjour Mathieu.